Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat. Une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une nouvelle mouture pour cette émission, pour cette édition 2022 d'Interclimat qui va arriver dans quelques mois, du 3 au 6 octobre, ça sera à Porte de Versailles. Je suis ravi de vous présenter cette émission en compagnie de Hugues & Jens. Bonjour Hugues.
Bonjour Fabrice.
Chargé de mission pour Interclimat, un petit mot justement sur ces nouveaux rendez-vous réactivés.
Voilà, ces nouveaux rendez-vous réactivés, puisqu'on avait déjà fait quelques émissions dans le cadre de l'édition précédente du Salon Interclimat. Cette année, en prévision du Salon Interclimat 2022, retour à la porte de Versailles, on a décidé de faire des émissions en partenariat avec nos partenaires de l'édition 2019, justement du Salon. On avait fait tout un programme de conférences avec différents partenaires, et notamment donc le pôle Habitat de la FFB, qui est notre partenaire du jour pour cette émission, avec une thématique autour de la RE 2020 qui vient d'entrer en vigueur.
Voilà cette RE 2020 dont on parle beaucoup, conséquence de la RE 2020 sur les solutions d'énergie et de confort en logement connectif. Donc on accueille, qui représente le pôle Habitat FFB, Julien Séry, bonjour.
Bonjour Fabrice et bonjour Hugues.
Vous êtes délégué national aux affaires techniques, donc on le disait, de pôle Habitat FFB. Avec vous, on va justement parler de cette problématique. On est également en compagnie de nos deux invités du jour, François Turland, bonjour.
Bonjour monsieur.
François, vous êtes président du groupe Bastide Bondour, on en saura un peu plus dans quelques instants. Et puis également avec nous, Baptiste Hermenier. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes chef de groupe marketing ECS Collectif chez Atlantique.
Absolument.
Voilà, alors on va organiser ce mini-débat. Merci d'être là, parce que c'est pas évident ces temps qui courent, d'être physiquement présent. Avec ce qui change, avec la RE 2020, ce sera notre première partie. Ensuite, quelles solutions chauffage et eau chaude sanitaire pour les logements collectifs? Et enfin, quel impact sur la filière. Voilà pour le programme. Je démarre avec vous, Julien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus justement de votre mission au sein de Pôle Habitat FFB, qu'est-ce que ça représente?
Alors le Pôle Habitat FFB, déjà pour présenter le syndicat, c'est une organisation professionnelle qui représente les maîtres d'ouvrage professionnels au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc on représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers, donc toute la chaîne de la maîtrise d'ouvrage professionnel. On représente également les rénovateurs qui travaillent en rénovation globale, donc ça c'est un sujet d'actualité et c'est un métier récent qu'on essaye de développer. Et moi personnellement je m'occupe des affaires techniques, donc de toute la partie réglementation, normalisation technique, et on a été au cœur des discussions sur cette RE 2020 depuis le début. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et cette RE 2020 elle est sortie officiellement, les textes sont officiellement sortis cet été, on a beaucoup travaillé dessus, et là on est dans la phase avec nos partenaires là, qui sont là aujourd'hui de préparation, et maintenant on est dedans, pleinement dans cette RE 2020.
Parfait. François Turland, un petit mot justement du groupe Bastide Bondour, de votre parcours et de ce que vous faites actuellement.
Alors effectivement, Bastide Bondour, c'est un groupe de différentes structures de bureaux d'études spécialisées dans la conception de bâtiments neufs, essentiellement sur des bâtiments résidentiels, avec une histoire assez forte en maisons individuelles, auprès des constructeurs de maisons individuelles et des réglementations thermiques, et puis depuis quelques années sur l'accompagnement des promoteurs publics et privés pour la partie promotion immobilière. C'est un groupe de bureaux d'études qui s'est spécialisé sur la partie énergétique, environnementale évidemment, avec la partie empreinte carbone dont on parle, dont c'est l'un des piliers pour la RE 2020, et puis aussi sur des thématiques de confort. Je suis moi-même co-gérant aussi d'une structure qui s'appelle Medieco, qui est spécialisée dans la santé des occupants du bâtiment.
Un sujet dont on parle beaucoup actuellement.
Aussi, forcément, avec la qualité de l'air intérieur qui est largement impactée dans nos vies.
Baptiste Hermenier, vous êtes chef de groupe marketing ECS Collectif et ENR Collectif chez Atlantique. Un mot justement d'Atlantique?
Bien sûr. Donc Atlantique, on propose du matériel pour le chauffage, le chaud sanitaire, la ventilation, la climatisation. Donc on est vraiment multi-produits, multi-énergie sur tout l'équipement du bâtiment. Et de mon côté, au sein d'Atlantique, je suis donc responsable des chefs de produits pour tout ce qui touche à la boucle à eau chaude en collectif. Que ce soit pour toutes les énergies, ENR et l'eau chaude sanitaire également.
Très bien. Autant, Hugues, de partenaires, d'exposants qu'on va retrouver sur le salon dans quelques mois.
Oui, tout à fait. Atlantique est exposant du salon Interclimat. Et puis, on a notre partenariat également avec Pôle Habitat, où on renouvellera certainement l'expérience de 2019 avec des conférences dédiées aux maîtres d'ouvrage sur le salon Interclimat.
Et puis, bien sûr, Bâti Radio sera présent. Hein, donc, on relaiera
Bâti Radio,
évidemment, voilà. Ces tables rondes pour ceux qui n'ont pas le bonheur de venir se rendre à la porte de Versailles. Ce sera du 3 au 6 octobre 2022, on le rappelle. Allez, on plonge dans le vif du sujet, conséquences de la RE 2020 sur les solutions d'énergie et de confort en logement collectif. Julien Séry, justement, on a beaucoup parlé de cette nouvelle norme, de cette entrée en vigueur au 1er janvier. Justement, qu'est-ce qui va changer ?
Alors, au 1er janvier, donc depuis le 1er janvier, finalement, on est dedans. La RE 2020 s'applique, donc c'est la suite de la RT 2012, hein, je pense que tous nos auditeurs sont au courant. Elle s'applique pour les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2022 pour le secteur du résidentiel, c'est-à-dire pour les maisons individuelles et pour les logements collectifs, qui est le thème qui nous anime aujourd'hui. Alors, il y a une dérogation dans la RE 2020. Si vous avez signé votre contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire votre contrat de maîtrise d'œuvre ou votre contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre 2021, quelle que soit la date de dépôt de permis de construire derrière, vous pouvez rester en RT 2012. Mais globalement, on peut dire que là, les PC qu'on va déposer, nous maîtres d'ouvrage, sont sous l'égide de l'ARE 2020, oui. C'est-à-dire qu'il va falloir améliorer encore les performances. Hein, c'est parce que on va faire le comparatif par rapport à l'ARE 2012. L'ARE 2012 donnait déjà des performances techniques pour le résidentiel neuf très très hautes. Et ben là, on va encore aller un cran plus loin sur la performance technique. Je laisserai peut-être François développer les différents indicateurs techniques rapidement. Et en plus de ça, la nouveauté, c'est l'introduction du carbone, qui est quand même l'indicateur ou la nouveauté phare, on va dire, de cette RE 2020. C'est-à-dire qu'on va calculer l'impact carbone de tous les bâtiments qu'on va construire. Tout ça dans le but de fixer un seuil à ne pas dépasser. Il y a plusieurs seuils. De fixer un seuil et de limiter l'impact carbone de nos bâtiments. Tout ça dans le but, bien évidemment, de réduire le réchauffement climatique et l'empreinte environnementale du secteur de la construction.
Le passage justement de RT, réglementation thermique, à réglementation énergétique, RE, pardon,
environnementale.
Alors c'est encore plus large, hein. Non, c'est le sens de ma question, donc c'est important de bien le signaler. C'est vrai que c'est encore plus large, ça demande encore plus de contraintes, entre guillemets, pour le meilleur évidemment pour demain.
Alors effectivement, Fabrice, la RE, donc réglementation environnementale 2020, c'est une évolution majeure pour nos bâtiments et notamment avec une prise en compte, et on en reparlera je pense, en conception importante, avec, Julien l'a dit, mais en fait il y a trois piliers fondamentaux. La sobriété énergétique qui est renforcée, avec une recherche notamment sur l'indicateur de conception qu'on appelle le BBio, hein, besoin bioclimatique, qui traduit la performance notamment de l'enveloppe à travers les systèmes d'isolation, mais aussi la prise en compte d'une bonne orientation du projet, d'une bonne perméabilité à l'air du projet, etc. Et ce BBio va être amélioré de l'ordre de 20 à 30% par rapport à la RT 2012. Comme disait Julien, pour autant, une RT 2012 déjà techniquement performante. Donc là, on va vraiment chercher une sobriété accrue. Le deuxième pilier, on l'a évoqué, c'est l'empreinte carbone et la décarbonation des projets à travers notamment des matériaux qu'on va considérer vertueux et d'ailleurs avec une progressivité de l'application de la RE, ça c'est une nouveauté, hein, il faut le signaler. On a tous souhaité dans la phase de préparation et de concertation à ce que les pouvoirs publics nous donnent de la visibilité pour les prochaines années sur l'évolution des exigences et des impacts de cette RE, et les pouvoirs publics ont accepté de définir effectivement un premier palier en 2022, puis un second en 2025, un troisième en 2028 et enfin un dernier en 2031, avec des exigences notamment sur la partie carbone qui vont être de plus en plus fortes, ce qui laisse le temps à la filière, aux acteurs, de se préparer aussi à des niveaux d'empreinte carbone de plus en plus contraignants. Et puis aussi avec un deuxième impact, donc des matériaux de plus en plus avec des empreintes carbone faibles, mais un deuxième impact aussi sur ce deuxième pilier qui est le retrait des énergies fossiles, en tout cas avec une certaine progressivité, on pourra en reparler aussi, mais un gros impact sur les systèmes énergétiques, que ce soit en maison individuelle dès 2022 et en logement collectif à partir de 2025. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'amélioration du confort d'été. C'était un peu le parent pauvre dans les réglementations précédentes, et on avait besoin en conception de travailler sur des bâtiments avec une meilleure prise en compte du confort d'été. Et il y a un nouvel indicateur qui s'appelle le DH, les degrés heure. Là aussi, on pourra rentrer un peu plus dans le détail.
Baptiste Hermenier, pour aussi, qu'est-ce que ça va changer du comment l'entrée en vigueur de cette RE 2020 ?
Alors, comme l'a dit François, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie progressivité dans cette évolution. Donc on va accompagner l'ensemble de la filière au travers des équipements. Il y a des équipements qui existent déjà, il y en a d'autres qui vont évoluer, il y en a d'autres qui vont être nouveaux. Donc on va voir arriver un certain nombre de nouveaux produits à partir de 2022, et puis ensuite on va suivre les différentes échéances avec des évolutions produits, plus de puissance, plus de performance, en fonction des besoins de cette décarbonation qui sera effectivement progressive.
On a beaucoup parlé de progressivité, là, on a les échéances qu'on commence à connaître. Pourquoi ? Parce qu'on parle aussi beaucoup d'un certain DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a eu des petits ratés au démarrage. Et on a l'impression finalement que c'est long, mais ça va arriver très très vite, quoi. 2022, 2025, 2028, en temps de bâtiment, de conception, de sortie, c'est très court. Qu'en pensez-vous ?
Je vous rejoins complètement, et c'est pour ça que j'insistais déjà sur la notion de conception, c'est-à-dire que pour un bâtiment collectif, 2025, en termes de conception, c'est demain matin. Mmh. Et même si on a déjà de la visibilité, alors il va y avoir des projets qui vont sortir entre 2022 et 2025, une partie sont déjà étudiées et puis une autre partie reste à étudier, mais nous, concepteurs, avec les équipes de conception, on doit déjà se poser les bonnes questions de savoir comment on va atteindre et avec quelles solutions les projet avec l'horizon 2025.
Oui, même question, Julien.
C'est vrai que cette progressivité, elle est à la fois intéressante parce que ça nous donne une certaine visibilité. C'est de ça qu'on a besoin quand même dans le bâtiment, c'est de savoir où on va. Et tout chef d'entreprise a besoin de savoir et d'avoir un peu de visibilité sur le long terme. Mais comme le disait François, c'est des échéances assez courtes. Typiquement, sur la partie énergétique, on parlait de la fin des énergies fossiles. Pour la maison individuelle, c'est dès 2022, c'est dès l'entrée en vigueur de la RE 2020 qu'il sera beaucoup plus compliqué de faire du gaz, de faire des énergies fossiles en général. Pour le logement collectif, ce couperet entre guillemets, il tombe à 2025. Alors ça peut paraître long et court à la fin, en tout cas dans le temps d'un projet. Finalement, il faut s'y préparer dès maintenant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui et qu'on regarde un peu le panel de solutions qu'on va avoir. Mais bon, c'est quand même positif, hein, cette progressivité dans le carbone. Il y a aussi dans l'impact carbone des matériaux de construction, il y a des échéances, comme vous le disiez, à 2022, 2025, 2028 et jusqu'à 2031. Ça permet de ne pas créer non plus de grands bouleversements de marché. Le biosourcé va prendre sa place progressivement dans la construction, et c'est plutôt ça laisse aussi les autres filières, c'est ce que je voulais dire aussi, ça laisse aussi les autres filières, aux autres filières le temps de se préparer, typiquement la filière minérale qui forcément a un impact carbone plus fort que la filière biosourcée, ben eux auront le temps de faire les efforts nécessaires pour baisser au niveau industriel leur impact carbone et rentrer pleinement dans cette réglementation dans les années à venir.
Au pôle FFB, vous êtes satisfait finalement de ce calendrier, d'avoir cette visibilité sur 10 ans, puisque ça a été finalement décidé sur les derniers mois, ce calendrier, ou vous auriez aimé que ça soit un peu plus long ?
Alors, on a demandé cette notion de calendrier, cette notion de visibilité. On aurait aimé, que les échéances soient un peu plus étalées dans le temps, notamment pour le gaz en maison individuelle, où c'est quand même assez brutal là en 6 mois finalement d'avoir ce couperet. Pour le collectif, on sait que 3 ans à l'échelle d'un projet pour se préparer, c'est pas non plus énorme. Mais globalement, voilà, on a demandé cette progressivité, on l'a eu. C'est toujours une discussion avec les pouvoirs publics, c'est toujours une négociation. À l'arrivée, je pense qu'on est sur une RE 2020 plutôt équilibrée. Forcément, tout le monde n'est pas satisfait, mais maintenant, la réglementation est sortie, il faut y aller, quoi.
Ouais, et puis, c'est important, de toute façon, on sait que le bâtiment est responsable, hein, de plus de 30-40%, les chiffres varient des gaz à effet de serre. Il fallait effectivement, dans cette trajectoire 2050, zéro carbone, etc., accord de Paris, être plus ferme. Et c'est tant mieux, ça force aussi vous, industriels, à vous adapter, à à imaginer des nouvelles solutions. François Turlan, sur le calendrier, vous vouliez réagir également.
Oui, alors malgré tout, je voudrais juste attirer l'attention de nos auditeurs qu'il y a souvent un revers de médaille à des bonnes nouvelles. C'est qu'il faut aussi faire attention que la progressivité annoncée et les exigences qu'on connaît déjà ne soient pas anticipées par notamment des politiques locales et certains territoires qui veulent d'ores et déjà, dans des référentiels d'habitat qui sont en projet ou qui sont définis, aller chercher des exigences de 2028 ou 2031 qui seraient particulièrement impactantes. Et je pense que c'est bien d'avoir de la progressivité, mais elle a été là justement pour laisser le temps aux acteurs de se préparer. Donc si on brûle les étapes, ça devient un petit peu compliqué. Ça, c'était une petite parenthèse, parce que on a quelques sujets en ce moment qui sont sur le feu, et il manque un peu d'analyse d'impact et de retour. Je pense qu'il faut y être particulièrement vigilant.
Je suis totalement d'accord avec François, puisque on n'a pas encore parlé d'argent, mais bon, cette réglementation, forcément,
elle a un coût.
Voilà. Bon, toute la transition environnementale a un coût en général. Hein, le coût de cette ère 2020, nous on le chiffre entre 5 et 10%, hein, que ce soit sur la maison ou sur le collectif, tout dépend de ce qu'on a en base déjà dans le descriptif, mais c'est déjà assez conséquent. On est dans un contexte en plus ultra-inflationniste sur le prix des matériaux, donc c'est quand même un contexte très 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 particulier, et on a effectivement, comme dit François, localement, des impositions, des collectivités, des communes, voilà, qui surenchérissent encore, et ça peut être très risqué pour le résidentiel neuf dans les années à venir, parce qu'il y a quand même un besoin de logement, un besoin de logement vert, certes, mais un besoin de logement en premier lieu.
Ouais, et on sait que ce résidentiel neuf est déjà sous pression, hein, avec des permis de construire qui ont du mal à être délivrés pour tout un tas de raisons. Baptiste Hermenier, sur le même sujet.
Oui, sur le même sujet, je suis tout à fait d'accord sur ce besoin de progressivité qui n'est pas là pour faire simplement plaisir à qui que ce soit. Au-delà même des questions d'argent, il y a des questions de réalisation ensuite des bâtiments. Il y a toute une filière qui doit évoluer, des compétences nouvelles. Qui doivent apparaître chez tout le monde, hein, chez les concepteurs, mais aussi chez les constructeurs, chez les installateurs. Et aller trop vite, c'est aussi prendre le risque ensuite pour les habitants d'être confrontés à des malfaçons, à des inconforts. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est aussi pour ça que cette progressivité est là, pour donner à tout le monde le temps d'expérimenter, d'apprendre, avant de généraliser de manière très très large.
Donc, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on avait quand même anticipé le passage de la RT 2012 à la RE 2020, en tout cas chez les promoteurs, les constructeurs. Attention, vous disiez, à pas aller plus vite que la musique, à pas anticiper peut-être la RE 2030, déjà, qui peut ensuite renchérir le coût. C'est important d'en parler, parce qu'au final, on sait qu'on a aussi un vrai problème de pouvoir d'achat. Les prix ont beaucoup monté. C'est sûr que c'est mieux pour la planète et pour tout le monde, pour le confort de chacun, d'être dans ces bâtiments modernes avec ces normes nouvelles. Mais attention au coût, voire au surcoût, que ce soit en individuel ou en collectif, peut-être certains ne pourront pas se les permettre demain, et ça pourrait être un nouveau facteur de blocage. On va parler justement aux solutions pratiques, hein, chauffage et eau chaude sanitaire pour les logements collectifs. Voilà comment on fait le lien. Baptiste, je me tourne vers vous, Baptiste Hermenier. Comment un industriel comme Atlantique s'est-il préparé justement aux changements annoncés dans ce logement collectif en termes de produits?
Alors, en termes de produits, c'est effectivement un bouleversement. Après, on ne parle pas d'un bouleversement absolu, c'est-à-dire que les solutions existantes vont évoluer. La thermodynamie, finalement, elle est connue déjà au sein de la RT 2012 depuis un moment, notamment pour le chaude sanitaire. Donc, c'est des produits qu'on connaît, qui ne sont pas forcément déployés au même niveau que ce que l'on a aujourd'hui, mais qu'on va continuer à faire évoluer vers, comme je le disais en préambule, vers plus de puissance, notamment vers des intégrations plus importantes, plus grosses, peut-être également plus harmonieuses d'un point de vue architectural. Mais on part d'une base qui est connue. Donc on a une évolution, les outils industriels vont évoluer également, avec des capacités de production qui vont augmenter fortement sur certains produits, notamment les thermodynamiques. Chez Atlantique, on s'y prépare avec beaucoup de recrutement, à la fois sur la conception de nouveaux produits, mais également sur toute la fabrication. On a des sites industriels complètement neufs qui sont en train de sortir de terre. Et ça, c'est en France. C'est aussi important de le dire, c'est une bonne nouvelle, parce que la progressivité donne aussi le temps aux industriels de s'adapter, de construire, de concevoir, pour avoir ensuite des produits qui seront fabriqués en France, pour être posés en France, pour être ensuite maintenus en France. Et ça, c'est aussi le gage de la qualité par la suite.
Oui, j'ai l'impression que justement ces nouvelles normes, c'est sûr qu'on a toujours envie de changer, mais quand il s'agit de changer nous-mêmes, c'est compliqué, les entreprises doivent s'adapter, mais finalement c'est aussi l'opportunité de grandir, aussi de progresser, hein, finalement. On le voit dans vos adaptations, peut-être dans les nouveaux projets pour votre entreprise. Du coup, ça veut dire que ce changement, il est assez radical. Est-ce qu'il est trop radical ou est-ce que finalement, quand on ne peut pas faire autrement, finalement, on va s'adapter?
Alors, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas faire autrement. Le climat, de toute façon, il change, donc on n'a pas le choix. Il faut décarboner. La progressivité est là pour nous aider à le faire sereinement et correctement. Mais c'est sûr qu'il faut le faire. Donc, trop radical, non. On va s'y adapter et on va y arriver. Sur les produits, on va avoir des nouveaux produits qui vont sortir. On travaille beaucoup aussi sur une logique de système, hein, parce que les produits interagissent les uns avec les autres. On parle beaucoup de thermodynamie. Les pompes à chaleur, c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent de ce qui est connu sur le gaz. C'est des machines dont la puissance varie avec la température, qui ont des besoins d'alimentation en air, etc., qui ont des appoints. Donc tout ça, ça doit se concevoir et ça se fera avec l'ensemble de la filière, de toute façon.
Très bien. Ce qui est nouveau, justement, vous l'avez dit, que thermodynamie, c'est connu. Ce qui est nouveau, c'est peut-être le chauffage.
Le chauffage, oui. Là aussi, on a une progressivité, hein, qui va se mettre en place. On pense notamment à l'hybridation, qui va permettre d'utiliser le meilleur à la fois du gaz, c'est-à-dire le fait qu'il est stable en température, dont la puissance est connue, l'exploitation est très très bien connue, avec une thermodynamie qui va arriver en plus pour apporter cette décarbonation, au moins sur toute la période 2022-2025. Ensuite, la thermodynamie va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc oui, il y a des nouveaux produits. On s'attend à une hybridation qui, là aussi, finalement, la progressivité va se traduire techniquement au travers de l'hybridation. On va conserver du gaz dans un premier temps, associé à la thermodynamie, puis passer probablement à la thermodynamie à 100%.
François Turlot, est-ce qu'il y a d'autres solutions techniques envisagées où justement il y aura là aussi une progressivité dans les changements, dans les mutations, ou d'autres produits qui sont en train d'apparaître sur lesquels on réfléchit déjà?
Déjà, je rejoins complètement Baptiste sur deux notions, hein, cette notion d'hybridation, il en a largement parlé. Il y a la notion de combinatoire ou de combinaison de systèmes, hein, on parle de systèmes double service, triple service, sur des besoins, sur le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, parce que il y a le combinatoire entre usages, mais il y a le combinatoire aussi sur les bénéfices pour les utilisateurs, à savoir sur les usages, mais aussi le confort. Donc il faut travailler sur l'ensemble de ces dimensions, hein, et il va y avoir des vraies évolutions en logement collectif aussi sur la problématique de l'intégration du confort, peut-être aussi en couplant des sujets plus sur la partie ventilation ou aération des logements. Pour revenir à votre question et y répondre plus précisément, au-delà des sujets thermodynamiques, il y a très clairement aussi une volonté politique, notamment dans les métropoles ou dans les grandes agglomérations, de développer les solutions de réseau de chaleur urbain avec des solutions plutôt vertueuses, hein, en amont, avec des énergies plutôt vertueuses en amont. On va avoir ce type de solution. On a des solutions éventuellement de bouclage aussi pour traiter la partie eau chaude sanitaire. Voilà, et je pense que tous les industriels ont dans les cartons des solutions, ou même au-delà des cartons, ont des solutions qui vont être déclinées du monde du tertiaire vers le résidentiel avec des adaptations. Peuvent avoir aussi des références produits à l'international qui vont être tout à fait adaptables sur le marché français. Donc on est sur je pense que là aussi où je rejoins Baptiste, c'est que cette notion de progressivité, elle permet aux industriels d'avoir de la visibilité. Ça demande toujours du temps, hein, d'adapter un plan produit pour des industriels. Mais là, au moins, ils ont des échéances claires et on va avoir une adaptation des systèmes. Alors, je voudrais quand même dire une chose, c'est que, on a quand même parlé du gaz à plusieurs reprises considérant qu'il était en train d'être écarté totalement de la réglementation en 2022 pour la maison individuelle, en 2025 pour le logement collectif. Je voudrais juste y mettre une atténuation, parce qu'à l'heure où on parle, il peut y avoir aussi des arbitrages politiques sur la valorisation du biogaz, qui peuvent moduler un petit peu nos propos sur les solutions énergétiques, et je pense qu'il ne faut pas l'omettre, parce que c'est des discussions qui sont en cours. On a pu voir des arbitrages à l'Europe la semaine dernière sur la valorisation du gaz comme énergie de transition, au même titre que le nucléaire. Donc on voit que politiquement il se passe des choses sur la filière gaz, et je pense qu'il faut quand même se dire que voilà, il y a une réalité à aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, et peut-être que d'ici quelques mois, il peut y avoir quelques évolutions sur le sujet.
Bien sûr, il y aura des évolutions, des arbitrages, et puis bon, on imagine aussi les professionnels du gaz qui s'organisent, qui doivent réagir, parce que voilà, couper comme ça en très peu de temps, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Julien Seyri.
Nous, en tant que promoteurs, plus on a un panel de solutions large, on va dire, plus on est content, on va dire, parce que plus ça nous permet d'optimiser, que ce soit techniquement et financièrement, ce qu'on peut faire pour nos clients. C'est pour ça qu'il faut, comme mes confrères, je tiens aussi peut-être à démystifier ce palier 2025 et ce fin du gaz en 2025, peut-être qui est parfois un peu caricatural, même si aujourd'hui on est sur un marché, nous dans nos statistiques, on est sur un marché qui a 80% presque au gaz, même gaz double service, c'est-à-dire gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire en collectif. Hein. Donc c'est quand même pas un virage anodin, on va pas se mentir, mais comme mes deux collègues l'ont rappelé, il y a des solutions qui existent et donc il faut un petit peu démystifier tout ça, et c'est là où je rejoins le propos de François en tout début d'émission, qui disait que ça, il y a aussi un changement dans les process, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler beaucoup plus en amont aussi, à l'anticipation, beaucoup plus dans la conception. La première partie, et c'est un indicateur très important dont a parlé François, c'est le BBO qui est calé de manière très très performante, c'est-à-dire l'enveloppe, l'orientation, la qualité de l'isolation. Ça va être vraiment le premier point pour 2022, et puis ensuite on va mettre le bon système qu'il faut pour avoir une consommation énergétique faible et surtout du confort dans le logement. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en musique. La progressivité nous y aide. Les industriels ont des solutions. Les bureaux d'études sont là pour aussi nous appuyer là-dessus. Et voilà, on y arrivera. Il y a pas de souci.
Une question justement pour le bureau d'études, François Turland. On peut imaginer aussi qu'il y aura une conséquence en termes de conception des bâtiments et des systèmes. Comment ça va s'organiser? Quelles sont les nouvelles solutions envisagées?
Ah ouais, mais là-dessus, c'est vraiment un sujet pour lequel je souhaite insister. C'est-à-dire que, bien sûr, la refonte de passer de 80% gaz en collectif à des solutions hybrides, combinées, multi-énergie, ça va avoir aussi un impact en aval sur les installateurs qui vont devoir se former. Mais entre maintenant où on doit commencer à réfléchir à la conception de ces projets et le moment où ces projets vont être réellement réalisés, sur lesquels les artisans vont travailler, il va se passer du temps. Donc on peut se dire que finalement ils vont pouvoir se former pendant ce temps-là, notamment au système thermodynamique. Néanmoins, ça a un impact. Pour autant, la conception, c'est dès maintenant. Et là, on a essayé de travailler déjà dans un schéma un peu similaire au RT 2012. On n'y est pas toujours arrivé. Très clairement, il va falloir que les équipes de conception, avec les architectes, l'ingénierie et donc tous les concepteurs concernés, le plus tôt, évidemment le maître d'ouvrage, travaillent dès l'amont sur les contraintes du projet. C'est-à-dire qu'un projet, c'est bien beau, on parle de BBO, on parle d'orientation, sur un terrain, sur une parcelle, on ne fait pas toujours ce qu'on veut en termes d'orientation. Donc c'est derrière comment on compense à moindre coût, à moindre impact, les difficultés qu'on peut avoir à ne pas pouvoir orienter correctement son projet. Donc tout ça, ça génère énormément, on pourrait parler que de ça pendant des heures, hein, la problématique de la conception le plus tôt possible d'un projet avec l'ensemble des acteurs, elle est fondamentale. Mmh. Et justement, encore une fois, j'insiste, mais on est sur une notion d'inertie, hein, dans ce monde du bâtiment. Il se passe du temps. Et du coup, là, on va commencer à réfléchir à quelles sont les solutions pour 2024, 2025. Et donc, avec ces paliers, il va falloir quand même que, avec les industriels qui cravachent, hein, ils se posent beaucoup de questions, ils nous apportent une partie des réponses qu'on puisse combiner tout ensemble.
Pour avoir une idée, sur un projet de logement collectif, combien d'années d'études avant le premier coup de pioche?
Combien d'années d'études?
Oui.
En fait,
en moyenne, hein, parce que j'imagine que ça dépend des projets, de leur ampleur, mais...
Nous, en collectif, en moyenne, entre le moment où on va signer une commande sur un projet et on va faire ce qu'on appelle l'étude préliminaire, qui est l'étude thermique, et le moment où on va délivrer un DCE pour la consultation des entreprises, il peut se passer 18 mois. Rien que pour ça.
Et là, on parle uniquement, c'est très important, mais on parle uniquement d'études thermiques et voire d'études carbone. Pour un projet de promotion immobilière, parfois, il peut y avoir des années d'études. Mmh. Si vous avez, je dis n'importe quoi, de l'archéologie sur le terrain, bon, bah, oui, là, vous êtes parti pour bloquer le foncier pendant beaucoup de temps. Il y a des, comme on le disait aussi, des permis de construire qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus longs à obtenir, des procédures qui sont de plus en plus compliquées. Donc, la RE 2020, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, donc on a l'impression que c'est la seule réglementation qu'on doit respecter, mais il y en a toute une foultitude et d'autres sont très très complexes et bon c'est tout le métier là du promoteur, c'est de lever tous ces verrous.
La RE 2020, on va passer à l'impact hein, sur la filière. Julien, il y a un enjeu toujours pareil, on se ressent en ce moment où il y a un véritable sujet sur l'emploi, sur trouver les bonnes personnes au bon endroit, et je pense que tout le monde est touché, mais le bâtiment qui était déjà en tension, peut-être encore plus dans ces métiers, l'enjeu ça va être de trouver des installateurs bien formés.
Baptiste le disait un petit peu, on va être sur des changements de technologie, alors bouleversement, mais au moins des changements ou des nouvelles technologies qui vont prendre des parts de marché beaucoup plus importantes qu'elles ne l'ont actuellement sur le logement collectif. Donc forcément, nous, promoteurs, on n'est rien sans nos entreprises et sans notre outil de production. Et effectivement, l'enjeu, ça va être ça. C'est déjà un enjeu aujourd'hui de trouver des artisans, de trouver des entreprises forcément qualifiées, formées et encore plus avec cette ère 2020 et avec l'essor des nouvelles technologies, sur du biosourcé aussi, le bois va peut-être aussi également percer. Là aussi, il va falloir trouver les entreprises adéquates. C'est vrai aussi, en ce moment, c'est très très vrai pour les matériaux. Mmh. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite, on va dire, crise ou d'un petit bouleversement comme ça conjoncturel sur lequel il faut s'adapter.
Baptiste Hermenier, justement, là sur les métiers en tension, vous y êtes confronté, bien évidemment. On a l'impression, en fait, que voilà, on a quand même une accélération technique, technologique. On a des métiers en fait traditionnels, même il y avait cette image hein, sur le bâtiment de métiers un peu voilà, et on s'aperçoit que c'est de plus en plus technique. Il faut de plus en plus de formation. Est-ce que finalement l'offre suit la demande, ou plutôt les gens, les appétences sont là pour combler tous les besoins qu'on a aujourd'hui?
Voilà, on va s'y employer, à les combler. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est que ce saut de compétences, c'est pas un saut où on oublie tout ce qu'on a fait précédemment. Déjà parce qu'il y a un parc installé qu'il faut continuer à maintenir. Donc les compétences qui sont connues sur le gaz, etc., toutes ces compétences, elles doivent rester au sein des entreprises pour l'exploitation, etc., etc. Y compris même pour la construction. Les bâtiments qui vont être construits cette année en 2022, on l'a vu, si on a 18 mois de conception d'un bâtiment, ça veut dire que c'est des bâtiments qui ont été conçus en RT 2012 avec les technologies RT 2012. Donc les compétences, c'est pas un saut vers quelque chose de totalement nouveau en oubliant le précédent, c'est finalement une nouvelle couche des nouvelles compétences. Donc c'est en ça que c'est effectivement compliqué, parce que c'est des personnes qui aujourd'hui travaillent et qui sont très bien occupées, comme vous l'avez dit, qu'on doit former, et pour les former, il faut prendre du temps. Donc on a de ce point de vue-là...
Alors qu'elles sont déjà débordées.
Alors qu'elles sont déjà débordées, c'est exact. Et en plus, on est sur un saut, un changement de produit, un changement technologique qui est, comme vous le disiez... très franc, entre une chaudière au gaz ou une pompe à chaleur, il n'y a vraiment rien de commun sur la manière dont on fait la chaleur, etc. La manière dont on l'exploite, la boucle à eau chaude, etc., ça, oui, c'est connu. Et de ce point de vue-là, Atlantique, on a des capacités de formation existantes. Mais sur les pompes à chaleur, notamment en collectif, bah là, on est en train, nous, en interne, d'étendre les possibilités de formation. Chez Atlantique, le service... C'est à peu près 500 personnes. La formation, c'est 10 centres de formation. Pour le collectif, on en a un certain nombre, 3 qui sont dédiés purement collectif et qui vont petit à petit voir apparaître des modules, des possibilités de formation sur les nouvelles technologies, sur la thermodynamie notamment. Donc cet accompagnement, on va le faire de cette manière. Et j'ajoute que c'est des formations qui n'ont pas vocation à être uniquement pour les personnes qui vont manipuler les produits, la pompe à chaleur, y compris en conception, pour les promoteurs, pour les architectes, pour les bureaux d'études, il y a des impacts importants à prendre en compte. Donc il faut démystifier, désacraliser la pompe à chaleur. Donc on va chercher à former, pas seulement sur les produits, mais bien sur la technologie, pour expliquer quels sont les enjeux. Peu importe finalement l'industriel après qui va fournir le produit, une pompe à chaleur, par principe, comme une chaudière gaz a besoin d'une cheminée, une pompe à chaleur, elle a des choses, des éléments qui doivent être présents pour bien fonctionner.
François Turlan.
Oui, je veux juste compléter, je dénaturerai absolument pas les propos de Baptiste. Néanmoins, il y a quelque chose qui peut me rassurer un petit peu, même si le contexte a changé, c'est qu'on a connu un grand saut avec la RT 2012, où le logement collectif était à 90% en chauffage électrique direct, hein, dit effet Joule, pour basculer à 75 ou 80% sur des solutions boucle à eau chaude, principalement en gaz. Et ça s'est passé. Alors, je dis pas 100 heures, mais ça s'est passé. Là, on est malgré tout sur des solutions, sur un vecteur boucle à eau chaude qui va se transformer, avec ce qu'a exprimé Baptiste. Mais néanmoins, voilà, il y a ce grand saut. On l'a vécu, on l'a subi. Je sais pas comment faut le dire, par le passé. Et là, il y a une énorme évolution à nouveau. Mais je suis assez confiant pour qu'elle se passe et que tout le monde puisse avoir les moyens d'y arriver.
Baptiste Herminier.
Ouais, c'est tout à fait juste, et l'hybridation va aider, hein, finalement. La boucle à eau chaude, elle est déjà là, nos installateurs, nos exploitants la connaissent très bien. Ce qui va évoluer, c'est le générateur. Avec l'hybridation, il va y avoir un des générateurs qu'ils connaissent très bien. Le deuxième, la thermodynamie, peut-être ce sera nouveau pour un certain nombre d'entre eux. Mais même pas pour tous, parce que comme on l'a dit, la thermodynamie est déjà existante en RT 2012, au travers notamment de l'eau chaude sanitaire thermodynamique. Les générateurs sont là. Ils seront éventuellement plus gros, plus puissants, etc. Ils interviendront sur le poste chauffage de plus en plus. Mais en fait, on a là aussi une progressivité je le redis, fait qu'on n'est pas sur un saut totalement vers l'inconnu. On a la boucle à eau chaude qui est existante, on a les pompes à chaleur qui sont existantes, on a les chaudières qui sont existantes. Simplement, elles vont fonctionner différemment, progressivement, en allant probablement, effectivement, de plus en plus en direction d'une part thermodynamique de plus en plus importante.
Oui, François Turlan.
En fait, j'ai pas forcément répondu précisément à votre question précédente, et c'est ce que vient de dire Baptiste me fait penser que il faudra pas négliger aussi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va voir en maison individuelle, mais je pense qu'on le retrouvera en logement collectif, qu'on parle de boucle à eau chaude, certainement, mais il y a aussi le vecteur air, et donc des solutions thermodynamiques sur vecteur air, qui vont soit apparaître, soit évoluer par rapport à des solutions existantes. Et là, pour le coup, il peut y avoir aussi, une grande nouveauté en termes de conception et de dimensionnement des installations en logement collectif qu'il va falloir intégrer.
Très bien, on arrive bientôt au terme de cette émission. Du coup, je vais te poser 3 questions pour l'industriel, pour le bureau d'études et pour les promoteurs. On démarre avec Baptiste, l'industriel. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits et notamment des choses nouvelles qu'on verra sur cet interclimat 2022?
Bien sûr, je crois que vous attendiez la réponse de toute façon. C'est évident, on va avoir des nouvelles pompes à chaleur de beaucoup plus forte puissance qui vont arriver, qu'on présentera sur l'ensemble de l'année 2022 pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc je parlais de pompes à chaleur plus forte puissance en l'occurrence. On va aller jusqu'à 70 kW, au moins dans un premier temps chez Atlantic. C'est des choses qu'on pourra voir tout au fil de l'année 2022.
D'accord, très bien. Pour les bureaux d'études, les défis dans l'immédiat, justement, là, on sait que les décrets viennent d'être adoptés. Est-ce que ça modifie tout de suite votre façon de travailler au quotidien ?
Alors effectivement, bah, y a cette notion, il faut former les équipes. Aujourd'hui, un bureau d'études thermiques n'avait pas forcément de connaissances et de compétences en génie civil, typiquement, à titre d'exemple. Pour calculer l'empreinte carbone d'un bâtiment, il faut aller prendre en compte ses fondations, les terres excavées, etc. Enfin, donc on a un gros travail de monter en compétences des équipes techniques des bureaux d'études. Et puis bah, voilà, j'ai insisté un certain nombre de fois sur, pendant l'émission, mais la notion de conception le plus tôt possible, de travail collaboratif, de dimensionnement des installations vont être des choses particulièrement à traiter avec, avec en étant méticuleux dans nos études. Donc voilà, une grosse montée en compétences techniques de nos équipes sur multi-sujets.
Monter en compétences des équipes dans les bureaux d'études. Et puis on finit du côté des promoteurs, Julien Seri. On sait qu'ils sont un peu sous pression avec tous ces bouleversements. Quel est l'état d'esprit pour cette nouvelle année?
Je vais pas être très original en vous disant que c'est une période qui est pleine d'incertitudes. On a une RE 2020 qui arrive dans un contexte compliqué et on en a longuement parlé. Donc on est dans un état d'esprit combatif, on va dire. Il faut qu'on continue. On répond à un besoin. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On répond aux besoins de logement en France. Et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir François et Baptiste et merci à Hugues aussi. D'organiser ces rencontres, parce qu'on voit que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Mmh. Et que dans le bâtiment, on a peut-être eu trop tendance à travailler, on va dire, en silo, la partie industrielle, la partie bureau d'études, la partie conception, la partie promoteur, etc. Bah, cette RE 2020, ce qu'elle va nous forcer à faire, alors dans un sens positif, c'est à travailler beaucoup plus ensemble et beaucoup plus en amont. Et le salon Interclimat, où des nouveaux produits vont être présentés, c'est exactement l'un des lieux où on peut se retrouver pour préparer ce genre de réglementation au mieux. Donc j'invite d'ailleurs tous les maîtres d'ouvrage, tous les promoteurs et tous les constructeurs à y aller, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça et ils vont s'y rendre.
Merci messieurs. Hugues, je vous laisse le mot de la fin. On a entendu beaucoup de choses durant ces 40 minutes d'émission. Hein. Bien sûr, cette progressivité qui a été âprement discutée, qui est peut-être pas assez longue. On verra s'il y a des aménagements. Bien évidemment, la formation, toujours très importante dans un contexte de tension sur les métiers. Montée en compétences, on l'a vu dans les bureaux d'études. Des nouveaux systèmes et des nouvelles technologies qui vont apparaître, qu'on aura plaisir à voir en vrai au salon. Et puis, voilà, la combativité. Hein. Voilà, ferme sur ses appuis, le pôle Habitat, FFB, du côté des promoteurs, là aussi, on s'adapte. Hein, on a de toute façon pas tellement le choix.
Julien vient de conclure, en fait. Sur le salon Interclimat en 2022, il y aura des choses à voir pour le logement collectif, parce qu'on voit que la problématique s'oppose dès maintenant, que c'est un enjeu pour toute la filière, tous les acteurs, hein, pas seulement les installateurs, les constructeurs, les bureaux d'études, mais les maîtres d'ouvrage et tous les acteurs des filières au sens large. Qu'on a travaillé également sur la formation, donc ça on en parlera également sur le salon, sur cette fameuse tension sur les métiers, on va également essayer d'apporter notre pierre sur le salon Interclimat à l'édifice en essayant de contribuer à améliorer la situation, hein. On va pas apporter des solutions miracles, si on l'avait, tout le monde serait content, mais ce sera pas le cas, on va y contribuer en tout cas, et puis du coup c'est pas seulement l'édition 2022, mais je pense qu'on aura une première partie des produits qui arriveront dès cette année, mais d'autres pour l'échéance 2025, donc pour l'édition suivante en 2024, et toujours à la porte de Versailles.
Ah, tant mieux, bonne nouvelle, on préfère être dans Paris. En tout cas, merci, voilà, c'était les premiers rendez-vous Interclimat par Uniclimat, en partenariat pour cette édition avec le pôle Habitat. Merci à Julien Seri, donc délégué national aux affaires techniques pôle Habitat FFB. Merci à François Turlan, président du groupe Bastide Bondou, c'était très clair. Baptiste Hermenier, merci à vous également, chef de groupe marketing ECS Collectif chez Atlantique. Merci Hugues et Jens. On vous retrouve, vous, quant à vous, dès le mois prochain. Merci à David Payan qui a réalisé cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Rendez-vous Interclimat par Uniclimat.
Les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.